Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge avec vous. Makale Camara, merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien avec VOA Afrique.
C'est un plaisir, chère Nathalie.
Alors je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes politicienne, présidente du parti FAN, le Front pour l'Alliance Nationale. Vous êtes la présidente de la Guinéenne en politique, mouvement dont on va parler. Vous êtes ancienne diplomate, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été ministre de l'Agriculture, ministre de la Femme, vous avez été donc ambassadrice de la Guinée en France, au Sénégal, etc. Et vous avez longtemps, pendant de nombreuses années, travaillé dans l'administration comme cadre notamment. Alors, Makale Camara, lorsque vous regardez derrière vous ce grand parcours, votre carrière, qu'est-ce qui vous a amené finalement à cette ascension? Il y a eu des obstacles, on imagine, jusqu'ici.
Quand je regarde ma carrière, je suis étonnée. Je me dis, est-ce que j'ai fait tout ça? À quel moment j'ai pu avoir fait tout ça? Le temps passe et on ne s'en rend pas compte. Je pense que je suis naturellement arrivée à ce niveau parce que je suis une grande bosseuse, j'aime travailler et donc je suis juriste de formation, maîtrise en droit du travail. J'ai été la première femme inspecteur général du travail de la Guinée et c'est arrivé à un moment où nous changions de régime, où nous sortions du socialisme pour embrasser un régime de marché, un état de droit installé. Donc toutes ces entreprises privées se sont installés devant moi, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse des industriels, qu'il s'agisse des PME. Donc j'étais inspecteur général du travail ayant pour rôle d'être le médiateur entre les syndicats et le patronat. J'ai fait 6 ans à ce poste. Au sortir de là, nous étions déjà dans une transition la première que la Guinée a connue en 1984 avec le général Lansana Conté. Quand il est arrivé, il a suspendu le parti unique, tous les mouvements syndicaux. Pendant 6 ans, au sortir de là, il a proposé une constitution au référendum et quand la constitution a été votée en 1990, il a mis en place une sorte de parlement appelé CTRN, Conseil de Transition de Redressement National. C'était donc le parlement de la transition dans lequel il a coopté juste 30 cadres, dont 3 femmes. Et j'étais la benjamine du groupe et nous avons écrit tous les textes de normes de droit issus de la Constitution. Pendant 1 an, on s'est activé à cela. Au sortir de là, donc, je fus nommée secrétaire d'État aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. J'avais 36 ans. Et 2 ans après, me voilà bombardée ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts. C'était vraiment un très grand ministère qui aujourd'hui est divisé en 3 ministères. Vous avez le ministère de l'Agriculture à part, le ministère de l'Élevage, mais aussi l'Environnement, les Eaux et Forêts. Donc, quand je regarde cette carrière, elle est très intéressante parce que j'ai beaucoup appris. J'ai grandi dans les hautes fonctions de l'administration publique. Après le ministère de l'Agriculture, il y a eu une interruption dans ma carrière parce qu'il y a eu un coup d'État en Guinée. Sur 24 ministres, on en a remercié 20, dont moi-même. Donc quand je suis sorti de là en 96, je me suis investi dans la société civile, dans l'activisme féminin, et me voilà la première secrétaire générale du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Ce réseau des femmes a été bien entendu recommandé par le Fonds des Nations Unies pour la Population et le Développement, qui, au Caire, avait tenu cette grande conférence en 1994. D'ailleurs, j'étais en fonction et j'ai conduit cette délégation au Caire. C'est cette grande conférence internationale qui a recommandé la mise en place par les États du réseau des femmes africaines ministres parlementaires. Pourquoi ? Parce que ils ont estimé que pour que les dossiers, les conventions, les lois avancent pour les femmes, il fallait impliquer les femmes de pouvoir que sont les ministres et les parlementaires.
On va revenir sur toutes ces questions-là. Oui. Vous avez connu donc plusieurs régimes en Guinée. Absolument. Comment voyez-vous l'évolution de votre pays depuis l'indépendance, depuis 1958 ?
Je dois dire que c'est une évolution en dents de scie, hein, parce que nous sommes à notre troisième transition. Nous sommes encore aujourd'hui dans une transition. C'est donc vraiment une évolution en dents de scie. Il y a des jours où ça va beaucoup mieux, il y a des jours où ça ne le fait pas.
À ce propos, de nombreux médias ont été suspendus. Beaucoup de personnes sont au chômage hein, depuis cela. Les rassemblements sont interdits. Vous avez beaucoup travaillé, notamment pour les questions de paix, de dialogue social, etc. Comment est-ce que vous voyez cette transition aujourd'hui ? Comment sortir de l'ornière ?
Cette transition, vraiment, aujourd'hui, pose des problèmes. Parce que nous n'avons pas les mêmes lectures que les autorités de la transition. Le porte-parole du gouvernement a dit que une transition ne doit pas avoir une fin en soi. La fin ne doit pas être inscrite dans le marbre, que ça dépend de ce qui se passe, des réalités du pays. Et donc, nous n'avons pas de lisibilité en tant que politique. Parce que comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui, les journaux sont fermés, le syndicat ne peut pas exercer les politiques. Les politiques n'ont aucun droit de manifestation. Alors nous, politiques, nous n'avons pas de visibilité sur la fin de cette transition, il faut le dire.
Makale Camara, vous êtes aussi venu aux États-Unis, notamment dans le cadre de votre mouvement, la Guinée en politique. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises ici notamment et avec quelles organisations ?
Je suis en vacances, je suis venu voir mon dernier garçon qui est là. Et j'en profite pour prendre des contacts, élargir le réseau pour la Guinéenne en politique. C'est ainsi que j'ai rencontré Uli Rodgers, qui est chargé de la région Afrique au niveau de NDI, National Democratic Institute. Nous avons eu une très longue discussion sur des questions qui m'importent. C'est comment impliquer de mieux en mieux les femmes en politique. Parce que les femmes n'aiment pas venir en politique, surtout à cause des us et coutumes, à cause de la religion. Il faut impliquer cette dynamique donc dans la mystique du travail, dans le développement de nos États. C'est comme si on s'amputait d'un pied pour marcher sur un seul pied si les femmes ne sont pas là. Et c'est pourquoi je dirais aussi que toute démocratie sans les femmes est une démocratie inachevée. Donc aujourd'hui, je me bats à plein poumon pour que les femmes prennent conscience de leur pouvoir si elles étaient vraiment en masse représentées dans la politique, puisque c'est la politique qui donne le pouvoir. Les femmes devront faire de la politique pour accéder, n'est-ce pas, aux instances de prise de décision, parce que le pouvoir, ça se tient à ce niveau. Donc, l'une de mes préoccupations que j'ai discuté avec le NDI, c'est de faire le tour du pays et de voir quelles sont les femmes qui sont intéressées à être candidates pour les prochaines élections, parce que une transition s'appelle à être finie. Et lorsque la transition sera finie, il y aura des élections.
À propos de cette transition, hein, Makale Camara, vous aviez milité pour qu'il y ait une transition de 2 ans. On arrive sur les 3 ans. Est-ce que les femmes peuvent avoir un rôle particulier pour que ces élections aient lieu assez prochainement ?
Toujours. Les femmes ont toujours eu un rôle extrêmement important, visible dans nos pays lorsqu'il y a un conflit. Parce qu'il y a toujours conflit au moment des élections. Que ce soit des élections législatives, des élections présidentielles, même communales, il y a toujours des bis-bis entre l'opposition et le gouvernement en place. Donc les femmes prennent leur bâton de pèlerin, comme la LGP sait le faire. Nous venons de conduire un grand projet financé par l'ONU Femmes, par le Fonds de la Femme pour la Paix et l'Action Humanitaire, que nous avons donc amené à l'intérieur du pays à parler aux autorités pour que, n'est-ce pas, cette transition soit la dernière chez nous, que c'est une transition aboutie pour que nous puissions nous parler les uns les autres, parce que c'est à travers le dialogue que l'on peut finir les conflits, se comprendre et arriver, n'est-ce pas, aux mêmes objectifs. Donc les femmes sont debout actuellement dans la société civile. Beaucoup d'organisations, que ça concerne Aouline, le réseau des femmes leaders africaines, que ça concerne justement le réseau des femmes africaines ministres parlementaires, que ça concerne la COFIG, la coalition des filles et femmes pour la paix et le développement, que ça concerne la Guinéenne en politique, nous nous donnons la main, nous essayons de nous réseauter pour que nous puissions influencer sur cette transition en parlant aux uns et aux autres. Nous avons fait des propositions de loi d'ailleurs que nous avons déposées au CNT. Le CNT, c'est l'actuel Parlement, le Conseil national de la transition. La Guinée en politique y a déposé, n'est-ce pas, deux propositions de loi dès 2023 concernant la parité, concernant l'Observatoire des droits des femmes, où les femmes puissent concourir, militer, être autour de la table pour discuter des questions qui les concernent, interpeller les autorités sur les lois favorables aux femmes. Je pense que c'est important.
Alors à propos de la parité, dans le nouveau gouvernement, il y a vraiment très peu de femmes. On est 20% ou quelque chose comme ça. Aussi très peu de femmes dans les nominations qui ont suivi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à cela finalement, à trouver si peu de femmes dans ce genre de nomination?
Tout à l'heure, je vous ai dit que mon pays évolue en dents de scie. C'est une régression. C'est une grande régression pour nous. C'est une inquiétude certaine. Et c'est pourquoi les femmes se sont donné la main. Plusieurs organisations, celles que j'ai citées et celles que je n'ai pas cité, nous sommes allés d'abord voir le ministre de la Femme pour l'interpeller sur cette question. Ce n'est pas acceptable que dans un gouvernement de 29 membres, qu'il n'y ait que 6 femmes, que pour les secrétaires généraux sur 25, il n'y en ait que 2 femmes, que les délégations spéciales au nombre de 375, qu'il n'y ait que 2 femmes. Le Premier ministre lui-même, il vient de nommer ses conseillers au nombre de 19, il n'y a que 4 femmes. Donc ça continue, nous nous demandons pourquoi ce bashing, pourquoi ce snobisme, pourquoi cet écart, pourquoi on ne pense pas aux femmes guinéennes qui ont cependant lutté pour l'indépendance de notre pays. On se rappelle de la grève de 72 jours où ce sont les femmes qui ont demandé aux hommes de rester à la maison tant que, n'est-ce pas, le colon ne leur a pas donné un salaire décent. Cela a duré 72 jours en 1953. C'est l'employeur qui a dû céder pour augmenter les salaires. On se rappelle de Mbalia Kamara qui est notre héroïne nationale qui s'est fait éventrer enceinte parce qu'elle s'est opposée alors à un roi qui supportait la colonisation. Nous nous rappelons de la grande Jeanne Martin-Cissé qui a été la première femme à présider le Conseil de sécurité au monde. Donc les femmes de Guinée sont debout, elles sont politiques, elles savent ce qu'elles veulent. Nous ne comprenons pas cette ségrégation que nous subissons actuellement, mais nous allons continuer. Donc à la suite de la ministre de la Femme, elle nous a conduite évidemment auprès du Premier ministre à qui nous avons remis un document de revendication de ce que nous souhaitons désormais pour l'application au moins des 30% qui ont été décidés à travers la 1325 des Nations Unies, mais aussi des 30% que la transition elle-même, dans sa charte, dispose qu'il faut donner 30% de postes aux femmes. Mais ces 30% n'ont jamais été atteints.
Alors, si je puis vous rassurer, entre guillemets, on est aux États-Unis, les femmes au Congrès ne sont que 27%. Elles sont 25% au Sénat.
Ouais.
elles sont 29% à la Chambre des représentants. Ouais. Qu'est-ce que cela vous inspire? On voit que c'est vraiment un problème universel et les femmes aux États-Unis, elles sont très nombreuses à se présenter aux élections. Donc cela veut dire que les gens ne votent pas pour les femmes. C'est un problème universel. Que faire pour que les gens votent pour les femmes?
Il faut continuer à se battre. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'il faut pas se relever. Les femmes doivent se relever parce que nous ne sommes plus là où nous étions au départ. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote aux États-Unis, en France et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons réussi à grappiller ces 20-25%. Ailleurs, c'est 30-50. Si vous prenez par exemple le Rwanda est un pays au monde qui a beaucoup plus de femmes à l'Assemblée
oui,
nationale.
Oui, on a 17 pays africains oui. qui ont plus de femmes dans leur parlement
Absolument.
Que les États-Unis.
Absolument. Mmh. Le Sénégal, les Seychelles, j'en passe. Donc nous évoluons petit à petit, mais nous évoluons quand même. Ce qui fait qu'il faut pas croiser les bras, il faut y aller, il faut faire de la pédagogie, il faut presser. Il faut massivement toquer à la porte, la pousser pour y entrer et nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que les autorités acceptent la venue des femmes parce que les femmes, là où elles sont, tout se passe très bien. Nous avons vu les pays qui sont gérés par les femmes sont les mieux gérés au monde. Nous avons vu les pays scandinaves qui n'ont même pas ou presque pas connu la Covid et ce sont des pays qui sont dirigés par les femmes. Nous avons vu la première femme présidente africaine, Ellen Johnson Sirleaf, quand elle prenait son pays, c'était après une guerre. Elle a fait ses deux mandats, elle est partie. Celui qui est venu, n'est-ce pas, à la prochaine élection, a pris son téléphone pour féliciter son challenger. C'est ce que nous souhaitons qu'il se fasse. Il faut qu'on fasse confiance aux femmes parce que les femmes ont une gestion vertueuse avec la compassion, la main tendue pour tout le monde.
Alors vous avez d'ailleurs dit, Makalé Camara, la Guinée n'aurait pas besoin d'emprunter au FMI ou à la Banque mondiale si nous avions une gestion vertueuse. Qu'en est-il des ressources naturelles en Guinée aujourd'hui?
Je le dis, je le maintiens. La Guinée, en Afrique de l'Ouest, est l'un des pays les plus riches, sinon le pays le plus riche en ressources du sol et du sous-sol. Nous avons une pluviométrie abondante. Nous avons plus de 6 millions de terres cultivables. Nous sommes riches en bauxite. Depuis les années 60, on est en train d'exploiter notre bauxite. Maintenant, nous venons d'ouvrir le Monemba, le plus grand chantier minier en fer. Et encore, nous sommes là à chercher de l'eau à la pompe. Les femmes ont encore la corvée d'eau, nous n'avons pas d'électricité tous les jours, nous n'avons pas les routes qui vont avec. Je pense qu'après 64 ans d'indépendance de cette gestion chaotique en dents de scie, on devra accepter de mettre une femme au pouvoir désormais chez nous pour que nous puissions changer la donne.
Vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation. On est aux États-Unis. Aujourd'hui, qu'en est-il des relations entre la Guinée et les États-Unis et la France surtout? Vous savez que nous avons ce sentiment anti-France en Afrique de l'Ouest notamment avec ces régimes militaires. Qu'en est-il de la relation entre la Guinée et la France?
Je pense qu'il n'y a pas un sentiment anti-Occident ou un sentiment anti-France en Afrique. Ce que l'Afrique demande, c'est de changer la forme de relation que nous avons avec l'Occident. Cette exploitation qui ne s'arrête pas, les mines que nous avons, les richesses que nous avons, qui sont exploitées à notre détriment, nous voulons changer les conditions des termes d'échange. Cela étant dit, les rapports entre la France et la Guinée se portent très bien. Nous n'avons pas encore ce problème chez nous où on porte les pancartes pour s'invectiver. La France a toujours été le premier pays bailleur bilatéral avec la Guinée. Cela continue. La France est en train d'ouvrir un chantier de transformation de la bauxite en Guinée. Ça, c'est un nouveau marché. Donc, je pense que tout va bien. Tant qu'on se respecte, tant que ce sont des rapports gagnant-gagnant, je pense que les Africains n'ont pas à jeter de l'opprobre sur l'Occident. Mais mais il faut que les termes, les conditions des termes d'échange changent désormais.
Donc vous voulez dire qu'on est sur la bonne voie entre la Guinée et la France, par exemple, pour changer ces termes, ces conditions au niveau du business, au niveau des affaires?
En tout cas, on est en train de beaucoup essayer avec cette transition. Nous voyons que des choses sortent de terre, que les conditions changent quant à la négociation des conventions que nous essayons actuellement.
Makalé Camara, on a aussi une nouvelle configuration. Vous vous souvenez de la période jusqu'aux années 2000 et quelques, fin 90-2000, on avait plusieurs rébellions dans la zone. Aujourd'hui, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme. Plusieurs pays sont confrontés à cette forme de guerre très particulière. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger se sont retirés de la CEDEAO, ont créé leur propre confédération et peinent à lutter contre le djihadisme. Comment on peut mettre un terme à cette guerre qui s'étend un peu partout, non pas seulement en Afrique de l'Ouest?
C'est triste pour l'Afrique. Après l'esclavagisme, après la colonisation, la néocolonisation, que nous fassions face au djihadisme, au terrorisme. Mais qui fabrique les armes? Les pays ont formé les Nations Unies pourquoi? Pour discuter des questions, pour mettre fin à la guerre, pour se parler, parce que le monde est un. Nous sommes sur la même terre, la même planète. Il y a la traçabilité de l'achat et du cheminement de ces armes-là. Si vraiment les Nations Unies, les nations du monde plutôt, voulaient aider l'Afrique à sortir de cette terreur, je crois que c'est possible. Aujourd'hui, on n'a même pas de guerre inter-État. On a les guerres fratricides, les guerres entre les frères qui sont vent debout les uns contre les autres pour s'entre-éliminer. À la fin, pour faire quoi? Pour détruire les pays qui ne sont même pas développés.
Alors, comment régler la question du djihadisme en Afrique de l'Ouest, selon vous?
Il faut la coopération internationale. Il faut que ceux qui vendent les armes arrêtent de nous les vendre.
Mais ce n'est pas seulement une question d'armes, le djihadisme.
Ce n'est pas seulement une question d'armes. Vous savez, ce djihadisme-là, en Afrique de l'Ouest, est à la suite de la déliquescence de la Libye. Quand la Libye est tombée, ces armes se sont retrouvées dans le désert, dans les mains de n'importe qui. Et aujourd'hui, ces pays africains sont largement, fortement déstabilisés. Donc, il faut déjà que les Africains eux-mêmes comprennent que le développement est leur challenge, est leur champ de bataille et non la guerre entre les mêmes frères. Donc, c'est d'abord la prise de conscience intérieure de ceux qui sont en guerre, qui doivent se rabibocher, se concilier, accepter de vivre ensemble et de partager tant de biens. Je prends le Congo. Il y a tellement de richesses au Congo. Pendant qu'eux, ils se battent et s'entretuent, les multinationales exploitent leurs richesses. Donc, il faut que les Africains eux-mêmes sachent que leur intérêt, ce n'est pas de s'entretuer pour que les autres s'enrichissent leur dos. Nous savons que quand les guerres sont quelque part, les gens continuent d'exploiter les richesses et de les convoyer en dehors des pays. Un peu de compassion pour l'humanité. Nous sommes dans un village planétaire. Quand on tue des enfants innocents, quand on bombarde les hôpitaux, quand on tue les femmes au marché, quand on met les femmes en esclavage dans le Boko Haram et tout le reste, où est l'humanité? Où est aujourd'hui l'humanité, de ceux qui regardent en silence et qui ne font rien, de ceux qui sont acteurs et qui n'ont aucune compassion les uns pour les autres. Donc je crois que c'est une question entière. C'est une question qui concerne l'extérieur et l'intérieur. Et si vraiment nous voulons mettre fin au djihadisme, il faut qu'on aille à la racine des choses et extraire le mal d'où il a commencé.
Makalé Camara, vous allez vous présenter à la prochaine présidentielle, on ne sait pas quand, un jour. Vous allez vous présenter à nouveau, n'est-ce pas?
Oui, si mon parti me choisit pour le représenter, oui, je vais me présenter aux prochaines élections.
Makalé Camara, merci beaucoup pour cet entretien avec VOA Afrique. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt Nathalie. Ce fut un plaisir.
Oh,
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.